Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 15e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi le modèle en cascade de régulation des émotions est un outil de bonheur? La semaine dernière, je vous avais indiqué combien l'intelligence émotionnelle liée à l'intelligence relationnelle est importante pour nous rendre heureux. Cette semaine, nous allons voir comment s'y prendre pour développer notre intelligence émotionnelle. Dans cet objectif, nous allons appliquer ce que les créateurs du concept d'intelligence émotionnelle ont imaginé sur la base de leurs recherches, le modèle en cascade de régulation émotionnelle. Car on ne peut pas gérer les émotions. On peut gérer un budget, mais pas des émotions. Les émotions, on ne peut que les réguler, c'est-à-dire éviter qu'elles ne deviennent incontrôlables. Les garder dans des limites acceptables. La régulation émotionnelle est un processus nouvellement développé. Il est décrit comme un processus d'identification et de modification des émotions, celles que vous vivez lors d'un événement du présent et celles que vous ressentez en rapport avec un événement du passé. Puisqu'un ressenti est un ressenti, un écho à un sentiment déjà vécu, que nous sentons de nouveau, que nous ressentons. Le modèle en cascade de régulation émotionnelle est un modèle à trois niveaux. Le premier est la prise de conscience. Le deuxième est la compréhension. Et le troisième est la régulation. Prenons le premier niveau par lequel entrer dans le modèle, la prise de conscience. Ici, il convient de détecter les émotions, les nôtres et celles de ceux avec qui nous entrons en relation. Lors de cette première étape, c'est donc notre empathie qui est sollicitée, notre capacité à déceler les émotions, auto-empathie pour nous-mêmes ou empathie dirigée vers les autres. Uniquement les déceler, c'est-à-dire les reconnaître. Dans le cadre de l'auto-empathie, c'est par exemple accepter de reconnaître son propre état de fatigue, de manque de sommeil ou de résistance à un virus ambiant, ou encore admettre son agacement, son inquiétude, sa lassitude. C'est aussi l'observation des signes montrés par les autres lorsqu'ils vivent une émotion et notre capacité à traduire ces signaux en mots afin de partager cette information comme « tu m'as l'air déçu » ou « je te sens énervé » ou encore « quelle tristesse dans son regard ce matin ». Dans cette étape, pas de jugement, ni de compassion, pas d'explication, ni de diagnostic, ni encore de pitié. Uniquement de l'observation et du partage quand c'est nécessaire. Pour s'entraîner, il existe des cartes et des jeux pour les enfants, comme les émoticônes. Quant aux adultes, ils peuvent s'entraîner chaque jour, et même plusieurs fois par jour, à noter leur météo interne, autrement dit, leur état émotionnel de l'instant à travers la métaphore météorologique. Alors, pour vous qui m'écoutez, ici et maintenant, quelle est votre météo interne? Grand soleil? Pluvieuse? Nuageuse? Variable? Orageuse? Ou brumeuse? Accueillir son état émotionnel, le reconnaître, l'accepter, est une étape importante et incontournable vers la régulation des émotions. Le deuxième niveau du modèle en cascade est appelé cognitif. Il consiste à comprendre ce que les émotions signifient. Nos émotions constituent un langage en mouvement. Elles nous poussent à la réaction inconsciente ou à l'action consciente. Elles nous parlent de nos besoins, elles nous rappellent nos valeurs. Il est donc déterminant, après avoir reconnu nos émotions, d'en tirer le sens, d'en comprendre la signification, autrement dit, de mettre à jour le besoin ou la valeur qui les sous-tendent. Ce travail d'approfondissement des raisons profondes à l'origine des émotions sera traité lors des prochaines chroniques du bonheur consacrées à la logique émotionnelle. Une approche récente de la psychologie qui offre une compréhension fine de la mécanique intime de nos émotions. En attendant, considérez que derrière chaque émotion se cache un besoin satisfait ou non, une valeur respectée ou non, que l'émotion soit du domaine de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la peur. Volontairement, je n'utilise pas le qualificatif d'émotion positive ou négative. Car du point de vue de la logique émotionnelle, toutes nos émotions sont utiles, donc positives. Bien sûr, certaines émotions sont agréables et recherchées, quand d'autres sont désagréables et évitées, parce qu'inconfortables, voire douloureuses. Pour autant, elles ne sont pas jugées comme étant négatives, puisque nous avons besoin d'elles pour vivre. Une vie sans peur serait une existence sans vigilance, sans prudence, une vie écourtée par les dangers, les accidents, les risques inconscients. Une vie sans colère serait bien terne. Une existence sans affirmation de soi, une vie de mouton, sans saveur, faite de fatalisme, de résignation. Une vie sans tristesse serait une fuite en avant sans réflexion, sans philosophie. Cet amour de la sagesse et du savoir, et sans la frustration de repousser sans cesse les limites de cette sagesse et de ce savoir. Une existence sans prise de conscience de notre fragilité, de notre finitude, de la maladie, de la mort. Enfin, une vie sans joie serait inadmissible. Une existence sans harmonie, sans libre arbitre, sans le plaisir de la solitude, ni celui du vivre ensemble, sans liberté et sans confiance. Une vie sans joie n'est pas imaginable. Voilà pourquoi toutes nos émotions sont vitales, composantes essentielles de la vie. Elles ont toutes quelque chose à nous dire. Et c'est parce que dans l'étape 1 du modèle en cascade, nous les avons reconnues, puis dans l'étape 2, nous les avons comprises, que nous pouvons aborder l'étape 3 afin de les réguler efficacement. Puisque nous ne pouvons modifier que ce que nous sommes capables d'identifier, une régulation efficace commence toujours par une réévaluation de la situation. Les stratégies pour changer vos émotions comprennent notamment le fait de penser à des choses plus agréables, différentes de la situation, de vous distraire avec une autre activité. Un travail particulier de connaissance de soi consiste à se demander quelles sont nos propres stratégies mises en œuvre lorsque nous prenons conscience d'une peur et que nous désirons la réduire. Quel comportement adoptons-nous pour fuir l'inquiétude, pour éviter qu'elle ne se transforme en angoisse, pour prévenir une frayeur paralysante ou une agitation déraisonnable? Quel pied de nez faisons-nous au danger? Dans la foulée, demandons-nous comment nous procédons face à la colère. Quel est notre antidote naturel contre l'agacement, l'énervement, la saturation, le manque de respect ou de considération? Quelle est notre attitude dans les moments de tension, les situations de conflit? Comment nous protégeons-nous des menaces? De même, il paraît intéressant aussi de se demander comment nous nous sortons des périodes de tristesse. Quel est notre comportement préféré en cas de blues? Comment réagissons-nous lorsque nous sommes déçus? Quelles sont nos stratégies pour rebondir lorsque nous prenons conscience d'une perte de sens ou d'un manque de choix? Chacune et chacun d'entre nous possède ses propres stratégies de cadrage pour limiter l'impact d'émotions débordantes. Et parmi les stratégies les plus courantes et les plus efficaces, nous trouvons toutes les approches qui permettent une réévaluation de la situation actuelle. Dans ce cas, cela consiste à porter un regard différent sur ce qui nous arrive. Ça peut se faire par un travail solitaire, un rendez-vous avec soi-même, ayant pour objectif de revoir la situation sous un autre angle, de questionner les croyances à l'origine de nos sensations les plus fortes, de changer de point de vue. Par exemple, en nous demandant comment nous aurons réagi à un moment plus heureux de notre vie. Lorsque nous étions enfants, par exemple, et que les soucis des adultes étaient incompréhensibles, et que nous étions focalisés sur l'essentiel, le bonheur de vivre. Réévaluer la situation peut aussi se réaliser en nous comparant aux autres, au pire que nous, notamment, c'est humain. Puis à considérer avec attention ce que nous possédons déjà, plutôt que ce qui nous manque pour être heureux. Une autre approche de régulation des émotions consiste à pratiquer des techniques de relaxation, telles que le yoga, la méditation en pleine conscience ou la sophrologie. Toutes ces approches nous aide à nous reconnecter à l'essentiel, le présent, à calmer le corps, le cœur et la tête, en faisant briller notre petite étoile au-dessus de nous, le domaine de notre spiritualité. Ainsi, nous pouvons modifier nos émotions, c'est-à-dire en réduire l'amplitude et l'impact. Comprendre que derrière la tristesse se cache souvent une colère retenue trop longtemps, et que derrière une colère peut se dissimuler une peur non autorisée. Ainsi, ne nous trompons pas d'émotions à réguler. À réguler et non pas à gérer. On ne peut donc pas gérer les émotions, mais tout au plus les réguler, tout en leur permettant de s'exprimer. Car le grand danger d'une volonté de maîtrise des émotions, c'est la dissonance émotionnelle. Elle intervient lorsque les employés doivent montrer une émotion tout en ressentant simultanément une autre. Or, à part pour les acteurs professionnels, chez qui c'est un travail, développer une dissonance émotionnelle consiste à afficher une émotion alors que nous en vivons une autre. Cela peut être très dommageable pour la personne et la conduire au burn-out. Dans beaucoup d'emplois, il y a un accord implicite sur les types d'émotions qui doivent être exprimées et celles qu'il vaut mieux garder pour soi. Par exemple, les serveurs et serveuses de café ou de restaurant sont censés être agréables et chaleureux, qu'ils ressentent ces émotions ou pas. Lorsque les employés ne ressentent pas l'émotion qu'ils sont tenus d'exprimer, ils peuvent éprouver une dissonance émotionnelle et cela peut conduire à l'épuisement et à la frustration face à l'emploi. Pour nous protéger du burn-out, jouons à fond la carte de la transparence vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Accueillons, domptons et régulons nos émotions tout en gardant une attention forte à l'instant présent, de façon à savourer ce qui se passe en nous. Les personnes les plus heureuses ne possèdent pas toujours la maîtrise de tout. Elles savent seulement profiter au maximum de ce qu'elles ont. Aussi, le conte de la semaine s'intitule « Une tasse de chocolat ». Un groupe de jeunes diplômés, ayant tous entamé une brillante carrière, a décidé de rendre visite à un vieux professeur qui avait déjà pris sa retraite. Pendant la visite, la conversation des jeunes se perdait en lamentations sur le stress immense qui avait envahi leur vie et leur travail. Le professeur ne fit aucun commentaire sur ce sujet et leur demanda s'ils désiraient prendre une tasse de chocolat chaud. Tous se montrèrent intéressés. Et le professeur se dirigea vers la cuisine d'où il revient plusieurs minutes plus tard avec une grande bouilloire et une grande quantité de tasses. De tasses toutes différentes. En porcelaine fine et en terre cuite rustique. En simple verre ou en cristal. Les unes d'aspect ordinaire et les autres très chères. Il proposa seulement aux jeunes de se servir à volonté. Quand tous eurent une tasse de chocolat chaud dans la main, il leur dit « Regardez comme vous avez tous cherché à choisir les tasses les plus jolies et les plus chères, en laissant les plus ordinaires et bon marché. » Bien qu'il soit normal que chacun désire le meilleur pour lui-même, ceci est l'origine de vos problèmes et de votre stress. La tasse dans laquelle vous buvez n'apporte rien de plus à la qualité du chocolat chaud. Dans la plupart des cas, c'est seulement une tasse plus raffinée et certaines ne permettent même pas de voir ce que vous buvez. Ce que vous vouliez réellement, c'était du chocolat chaud, pas la tasse. Mais vous vous êtes dirigé inconsciemment vers les meilleures tasses. Tandis que tous confirmaient l'observation du professeur, plus ou moins embarrassé, celui-ci continua. Considérez maintenant la chose suivante. La vie est le chocolat chaud. L'argent et la position sociale sont les tasses. Celles-ci sont seulement des moyens de contenir et de servir la vie. La tasse que chacun possède ne définit et n'altère pas la qualité de votre vie. Parfois, en se concentrant seulement sur la tasse, on finit par ne pas apprécier le chocolat chaud que la vie vous a offert. Les personnes les plus heureuses ne possèdent pas toujours le meilleur de tout. elles savent seulement profiter au maximum de ce qu'elles ont. Pour l'action de la semaine, prenez un exemple récent d'inquiétude, de frustration face à une injustice ou un exemple de stress. Puis suivez le modèle en cascade pour prendre conscience des besoins à ce moment-là, puis pour comprendre quelles propres valeurs n'étaient pas respectées de votre point de vue, avant de procéder à une réévaluation de la situation afin de réguler l'émotion. La musique de bonheur de la semaine est un titre un peu ancien mais que j'adore. C'est de Paul McCartney et Wings et leur titre est Silly Love Song. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux.
I'd like to know, 'cause here I go. Come at all.